Donc il va falloir me pardonner, c'est la première fois qu'on me demande de modérer une table ronde. Alors,
mais c'est pour ça qu'il n'y a personne alors.
Tout le monde a eu peur en voyant Daniel Martigal comme modératrice. Et puis, alors je pense que si on m'a demandé de modérer cette table ronde, c'est parce que je connais fort bien les deux lascars qui m'entourent. J'ai écrit pas mal de bouquins avec Alain. Je n'ai jamais écrit de livre avec Pierre.
Mais t'en as lu.
J'en ai lu, voilà. Et Gigante a cette particularité donc, d'avoir été créé par ces deux messieurs. Et moi, quand j'ai su qu'il y avait ce projet, j'étais très très intéressé. J'avais hâte de lire ça. Parce que je sais qu'Alain est un passionné de création d'univers de science-fiction. Et je voulais, avec beaucoup d'intérêt, découvrir ce qu'ils avaient fait ensemble, quoi, puisque j'en avais déjà fait pas mal avec Alain, et voir ce que d'eux allaient créer. Donc je savais qu'il s'agissait d'une planète gigantesque très tôt, avant même de lire les textes, mais j'avoue que quand j'ai lu les romans, j'ai été un peu bluffé quand même, hein. C'est vraiment deux bouquins qui m'ont passionné. Alors moi je les ai lus dans un ordre assez particulier, qui paraît-il n'est pas l'ordre habituel. Il convient, soi-disant, d'après les deux auteurs, de lire d'abord celui de Pierre et ensuite celui d'Alain. Or, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai lu celui d'Alain en premier et celui de Pierre ensuite parce que j'étais curieuse, au premier abord, de voir ce qu'Alain avait écrit comme livre en collaboration avec Pierre. Et donc, j'ai lu le roman d'Alain, c'est-à-dire « Au nom du Fils ». C'est celui-là, donc le plus petit des deux. C'est le roman jeunesse.
Non, il faut commencer par Pierre pour être débarrassé de parents et après vraiment rentrer dans l'histoire avec voilà. Le mien, c'est simple.
Et puis, moi ça ne m'a pas gêné du tout de commencer par celui d'Alain et de découvrir ensuite l'approfondissement de l'univers qui était envisagé dans celui de Pierre. Je conçois que ce soit plus logique de lire d'abord celui de Pierre qui raconte donc les événements antérieurs à celui-ci. Mais je pense franchement qu'on peut les lire dans le désordre, ce qui me semble être une très bonne chose, dans la mesure où le prix Pierre Bottero hier présentait celui-là dans sa sélection, et donc on a vu hier après-midi tous les jeunes des collèges des environs dans la salle à côté, là au niveau du cinéma, qui posaient des questions suivant leur choix, etc., de lecture, à propos du livre d'Alain. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans la démarche, c'est le fait que tous les jeunes qui ont lu Au nom du Fils, dans le cadre, par exemple, du prix Bottero, ou au hasard de leur lecture d'adolescent, seront donc tentés, dans un avenir relativement proche, de lire celui-là. Autrement dit, la plupart des jeunes lecteurs vont le lire dans l'ordre où je l'ai lu, moi. C'est-à-dire le roman jeunesse en premier et le roman adulte ensuite. Et je peux attester du fait que ça ne gêne absolument pas la lecture et la compréhension du texte de faire dans cet ordre-là.
À condition qu'ils n'aient pas été dégoûtés d'emblée.
Mais donc en fait, Gigante, je ne sais pas si vous êtes capable de nous expliquer exactement tous les deux ce qu'est exactement la planète Gigante. Alors, sa taille déjà.
Je m'en souviens plus. immense, dans tout ce que je sais, c'est qu'il y a, au départ, l'idée, je voulais l'idée, enfin je partais de l'idée d'une planète géante parce que j'avais vu une animation sur internet où ils montraient les tailles des soleils. Et notre soleil est une vulgaire crotte de nez par rapport à certains soleils. Et les plus gros, il faut 1000 ans pour faire le tour en avion. 1000 ans en avion. Ça, cette dimension immense, là, me plaisait beaucoup, donc j'en ai parlé à Pierre. Abondé dans le sens, bon là on a réduit un peu la planète pour la rendre un peu plus crédible et on a déterminé le fait qu'il fallait 100 ans à un avion pour en faire le tour, ce qui est déjà gigantesque. Voilà. Et quel problème on pouvait avoir de déplacement sur une planète aussi gigantesque.
Donc je réponds, puisqu'il n'a pas répondu, elle fait donc 18 000 fois la Terre. Hein, c'est une planète qui fait 18 000 fois la Terre, 180 fois le Soleil. C'est dit dès le début, puisque toi, ton personnage, quand il arrive au début, justement, il fait le point.
Oui, oui, mais après, la crédibilité dont parle Alain, on s'est dit qu'elle n'était pas crédible même à cette taille-là, parce que dû s'effondrer sur elle-même, mais on s'est dit qu'il existait des exceptions dans l'univers, que cette planète était une exception dans l'univers, et que ce qui nous intéressait finalement, c'était pas tant d'avoir une planète géante, mais de savoir comment les hommes pouvaient s'adapter à ce monde absolument hors normes. Ce que ça allait donner comme civilisation, ce que ça posait comme problème, et entre autres beaucoup de problèmes de voyage et de déplacement. Enfin, c'est ça qui est intéressant, surtout que j'ai retenu quand Alain m'a parlé du projet. C'est lui qui est l'initiateur du projet, sinon j'aurais jamais travaillé avec lui. Et je ne travaillerai plus jamais avec lui. Quand on m'a suggéré l'idée de planète géante, ça m'a beaucoup intéressé parce que ce qui est, je pense, le plus passionnant dans un planète opéra, parce que c'est un vrai planète opéra, c'est de voir comment les gens vont la découvrir, ce qu'elle va les obliger à accomplir et comment ils vont évoluer pour s'adapter à ce monde. C'est ça qui m'a tout de suite passionné dans l'aventure.
Donc le soleil s'appelle Colosse. Moi, je l'ai prononcé Colosse pendant très longtemps jusqu'à ce que je percute sur le fait que c'était le mot Colosse, écrit K-O-L-O-S. Ça m'a pas apparu d'une façon évidente au départ. Et puis, cette étoile du système, en fait, on ne parle pas d'autres planètes aux environs, proches, mais en revanche, on signale à plusieurs reprises que la planète gigante a 12 lunes. Alors, j'ai essayé de trouver tous les noms, je ne les ai pas tous trouvés, je me suis demandé si vous les aviez vraiment cités à un moment ou à un autre, les 12 noms des 12 lunes, non ? Parce que moi, j'ai trouvé Rhea, Ossan, Nézine, Phaïb et Hippion.
Oui, qui sont des déformations de la mythologie grecque, hein, des premiers titans.
D'accord. Et ce qui est important, donc, dans l'hypothèse d'une planète qui serait un soleil qui ne s'est jamais créé, en fait, tout à l'heure Alain parlait du fait qu'il y a énormément de soleils doubles dans notre galaxie déjà, on peut très bien supposer effectivement que la planète gigante est une étoile, enfin c'est une planète gazeuse qui ne se serait jamais allumée en fait. Hein. Et donc elle a une croûte terrestre assez importante qui est suffisamment importante pour que la faune et la flore se développent. Et ce qui est surtout intéressant, c'est donc qu'il y a un tel bouillonnement à l'intérieur de cette gigantesque planète qu'il y a donc ce qui est immédiatement perceptible sur les couvertures, des orages absolument démentiels, les flux, etc. Alors, Pierre disait que les personnages qui arrivent sur cette planète sont soumis à des contraintes extrêmes. La première, évidemment, c'est le temps. Comment on va calculer comment ça va se dérouler à la surface de la planète. Alors, le temps sur Gigante.
On a du mal.
Oh, c'est pas ici, c'est pas possible.
Ah hein, oui, mais là. On a dit, attends, l'intitulé c'est Gigante à la loupe. Alors on y va en détail. Hein.
Attends, je révise.
Oui, révise pour donner les chiffres pendant que je noie le poisson. Alors.
Oui, c'est Gigante à la loupe.
Ah, c'est marrant, c'est comme ça qu'on a travaillé tout le temps.
En fait, le problème qui se pose, c'est si vous êtes, les gens viennent sur cette planète gigantesque créer des colonies. Si vous êtes très riche, vous venez avec votre propre vaisseau qui va atterrir sans repartir et qui va être la base fondatrice de votre société, simplement avec tout ce que ce vaisseau va transporter pour créer la colonie. Et en même temps, se servir de la ferraille, par exemple, pour démarrer des choses. Et puis, il y a d'autres populations qui migrent, mais qui sont moins riches, ce qui explique toujours. Il y avait toujours des gens qui allaient aux États-Unis en première classe, et puis il y avait les autres dans la suite. Et bien là, donc, ils arrivent à l'aéroport, le seul aéroport de cette planète, mais ils sont tellement loin que pour rejoindre l'endroit qui leur a été décerné, j'allais dire, il va falloir qu'ils partent. Et là, donc, le temps est tellement gigantesque que ça va forcément engendrer un voyage générationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui vont partir de l'aéroport qui vont arriver, mais X générations après. Donc voilà, il y avait deux sociétés à décrire, enfin deux modes de société.
T'as suffisamment révisé ?
Oui, alors je vais dire ce que j'ai écrit. Même exemple que les moines. Le jour dure 2 mois de temps unifié, 2 mois de notre temps, un jour, qui est divisé en 30 quartiers diurnes et en 30 quartiers nocturnes. Après, on a subdivisé ça en 20, en 20 20e et en 10e. Donc voilà, c'était pour donner juste une échelle du temps, c'est qu'un jour sur gigante, c'est un mois de notre temps à nous. Ce qui veut dire que le métabolisme des gens doit s'adapter. Donc pour les aider à s'adapter, on leur file des ADN en boucle de l'ADN de synthèse, des boucles, qui leur permettent de mieux supporter l'alternance
jour-nuit.
Mmh. Il y a un nom pour ça, c'est là. Non, bref, ça me reviendra. Et donc aussi, le problème, un des problèmes principaux qu'ils rencontrent les nouveaux colons, c'est la gravité. Il faut s'adapter à la gravité, ce qui fait que les générations suivantes des gigantins sont beaucoup plus larges et costauds que les arrivants. C'est-à-dire que leurs muscles sont plus épais, ils sont plus en largeur, qui leur permettent d'affronter la gravité. Quand on arrive, souvent on prend des vêtements gonflables qui nous permettent de supporter un peu la gravité, c'est-à-dire d'alléger comme des ballons, hein, tout simplement, des combinaisons spéciales qui permettent de pouvoir évoluer dans cette gravité en à peu près normalement, quoi. Ça, c'était des contraintes aussi des gens, outre le fait qu'effectivement, quand ils doivent aller sur un nombre d'amètres qui est très éloigné, ça va mettre un temps fou, surtout que les transports ne sont pas toujours au point. Oui, enfin, on en parlera après.
J'ai fait le pointage des façons de se déplacer à la surface. Il y a donc les vaisseaux spatiaux qui se posent à certains endroits, comme l'a dit Alain. Ceux qui atterrissent sur l'astroport de la capitale, après ils prennent des glisseurs, hein, des espèces de grands véhicules à aéroglisseurs. Il y a aussi des avions que vous appelez les aérolotes. Hein. Il y a des véhicules personnels qui s'appellent les sagles.
Oui.
Hein, on est bien d'accord. Il y a les bateaux, il y a les ballons, et puis il y a tout simplement des montures animales traditionnelles, pas si j'ose dire. Et puis la dernière façon d'y aller, c'est d'y aller à pied. Hein, là, il ne faut pas te presser, hein, on est bien d'accord. Mais
Compostelle à côté, c'est rien.
Oui. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui peut sembler assez ardu quand on le dit comme ça. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement que c'est distillé. Bon, Pierre, lui, il l'a expliqué dès le début, parce que son héros est un héros qui découvre le monde, donc il nous entraîne avec lui. Pour Alain, c'était différent. Toi, tu avais une contrainte qui était différente, puisque tu pensais, en écrivant ton livre, que Pierre avait déjà été lu avant toi. Et donc, quand on écrit pour la jeunesse, je suis bien placé pour le savoir, on est obligé de redonner des repères assez rapidement aux jeunes lecteurs. Ça t'a obligé à garder présent à l'esprit tout le temps le fonctionnement de la planète tel que Pierre l'envisageait. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand tu as écrit le tien, avais-tu lu celui de Pierre?
Bon, non, bon, alors, sujet qui fâche.
Un grand sujet qui fâche. Bon, alors, je vous explique. Il y a deux races d'auteurs.
Bon, j'ai le temps là, si tu veux.
Il t'attend de lire ton livre. Les structurants et les sculpturants. Alors les structurants, ils ont besoin de tout savoir avant de commencer, ils font un plan très serré et tout. Je fais partie de ces gens-là. Malheureusement, Pierre est un scripturant. C'est-à-dire que lui, il s'installe à l'ordinateur, il ouvre le robinet, comme un robinet d'eau, et l'histoire coule voilà.
De source, de seulement, source. C'est le moment ouais. De le dire.
Donc, on savait ça d'avant, parce que sinon c'est terrible, on savait ça d'avance. Sauf que M. Bordage a une autre spécialité, c'est de rendre toujours en retard ses manuscrits. Il ne travaille que dans l'urgence. Ce qui fait qu'il était en retard pour son roman précédent, alors qu'il aurait dû écrire entièrement le livre, me le passer, et à partir de là, moi, je reconstruisais l'histoire. Du coup, on a été obligé pour des impératifs, parce que la talente l'avait programmé à une certaine date, d'écrire en même temps les deux histoires. Ce qui fait qu'il y avait un rituel. Tous les matins, je téléphonais à Pierre pour dire « Bon, alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là » Et la réponse invariable était « Je ne sais pas ». Donc, j'étais un petit peu dans l'expectative et tout pour faire ça. Voilà. Il a fallu, effectivement, des fois, j'ai même arrêté de travailler pendant 2-3 jours, le temps que son chapitre arrive, parce que la solution était là, à ce moment-là, pour moi. Parce qu'il fallait que je sache comment se déplacer, comment il avait fait, comment on rentrait dans le flux, comment on en sortait, etc. Et tout ça, ces informations-là, il n'en était pas encore parvenu. Voilà, donc ça a été assez hard là-dessus.
Je voulais juste dire qu'il y a le problème quand même essentiel que c'est un père, un fils, hein, on va peut-être parler quand même des deux personnages principaux, et que justement, autant que j'ai été témoin par les conversations que je pouvais avoir avec Alain, lui il parlait d'un fils, et toi tu n'avais pas encore envisagé la conception du fils en question.
Oui, à un moment il m'appelle complètement paniqué. Il me dit, mais tu sais que moi je dois y avoir un petit-fils et que ce serait peut-être bien de le faire, un petit-fils. Ah oui, mais t'as raison, oui, tiens, allez. Et bon, ils l'ont fait, ils ont réussi à le faire, dans les délais.
Et c'était juste, hein.
C'était marrant de voir comment travailler avec quelqu'un comme Alain qui a besoin de savoir les choses avant de les écrire. Parce que du coup, il me mettait une pression d'enfer, quoi. Parce que je savais que mon chapitre allait être lu. Je vais expédier mes chapitres au fur et à mesure que je les écrivais, qu'il allait plus tout de suite et tout ça, qu'il n'allait pas me rater, parce que comme en structurant, il remarque toutes les incohérences technologiques ou scientifiques. J'essaie de leur faire le moins possible, mais bon, à l'impossible n'est plus tenu, n'est-ce pas. Et donc cette façon de travailler était vraiment nouvelle pour moi, et je sentais un peu ce que ça pouvait être, sa façon de travailler. Je me dis, c'est purement l'enfer, quoi. Je ne veux jamais travailler comme ça. Je vais continuer à travailler comme je sais faire, voilà. Mais c'est intéressant, ce qui m'intéresse aussi, c'est que Alain, c'est quelqu'un qui est une machine à idées, et c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qui est une machine à idées, quoi, parce qu'il y a toujours des solutions ou des trucs qu'il va vouloir explorer, qui ouvrent des perspectives super intéressantes. Ça, c'était vraiment, pour moi, l'enrichissement de notre collaboration. Et ça me fait mal de dire du bien de toi.
Dans l'autre sens, moi j'ai admiré de Pierre la façon dont il plonge vraiment dans la merde ses propres héros. Et moi je me dis, mais comment il va arriver à s'en sortir? Alors je lui posais la question, comment ils vont s'en sortir? Je sais pas. Mais il y arrive tout le temps. Et c'est presque un jeu de les mettre face à un mur, mais alors infranchissable, et pourtant ils trouvent la solution.
Alors les deux héros. Il va falloir parler des héros quand même.
Parce qu'il y a un peu de la tragédie grecque là-dedans.
Oui. Donc Zaslo, c'est de la famille mercicante, hein. Zaslo, qui est le fils, et Coeb, qui est le père. Hein. Et puis il y en a un troisième qu'on voit apparaître, qui est donc Drake, le petit-fils. Alors ils sont trois personnages masculins très importants dans le diptyque. Ce qui est intéressant à savoir, justement, c'est quelles sont les relations entre tout ce monde-là. Alors,
ça, tu devrais déjà donner à Pierre, parce qu'il va parler du père, du père et du fils.
Oui, mais...
déjà, d'accord. Bon, alors, d'accord. Alors, Keub, le père, est parti. C'était un ethnologue, un archéologue qui a entendu parler de géants existant sur la planète gigante et qui veut absolument explorer la planète pour découvrir ses ossements. Et il est parti en abandonnant sa femme enceinte.
Sans le savoir.
Sans le savoir. Il ne sait pas que sa femme est enceinte. Il part, et il part pour un voyage sans retour puisqu'il va mettre 40 ans pour aller sur gigante.
Avec une technique particulière,
c'est oui, qui est la technique de la tête coupée, dont là on parlera après, donc oui. On en parle beaucoup ces temps-ci aux actualités.
Ouais, j'avais raison.
Et donc, Zaslo, le fils, a été élevé par sa mère dans la haine de son père, parce que pour lui, le père a abandonné sa mère, il l'a abandonné lui-même, il ne connaît pas son fils, et donc il est élevé dans le rejet de ce père. Il se trouve qu'à l'âge de 20 ans, et que sa mère meurt, et que lui, il va décider aussi de partir sur les traces de son père sur la planète gigante. Mais, entre-temps, la technique des voyages spatiaux a considérablement évolué, si bien que lui ne va mettre que 2 ans à aller jusqu'à gigante. Alors son père, lui, est toujours dans son voyage de 40 ans, vous vous rappelez? Et donc lui, il va arriver 2 ans avant, donc 18 ou 20 ans avant son père sur la planète, en étant parti 20 ans après. Donc, et il part sur la planète dans l'idée d'attendre son père pour le tuer, tout simplement, pour se venger de lui. Et pour le tuer. Mais comme il a un peu de temps, du coup, il a une vingtaine d'années devant lui, il va décider de partir lui-même à la recherche des géants, des ossements des géants dont il a entendu parler, pour ce pourquoi est parti son père, se disant que s'il les trouve avant son père, il le tuera d'une double façon, c'est-à-dire qu'il le tuera à la fois sur le plan archéologique et après pourra revenir pour l'attendre à l'astroport de Gigante et le tuer. Ça va, j'ai bon, François ?
Continue.
Et donc, donc on va suivre les aventures de Zaslo, partant à la recherche des ossements de géants qui auraient existé, qui auraient été découverts quelque part, dont on n'est vraiment pas sûr, parce que on pense que ça peut être des rumeurs, tout simplement. Et donc il va partir, et ça va être son aventure, et il va découvrir quelque chose de particulier sur la planète, qui s'appelle les flux. Donc on a parlé des orages, parce que la planète est génératrice d'orages permanents, où il y a des boules de feu qui se mettent en route et qui bombardent tout. Enfin, c'est un peu l'enfer, hein, cette planète. Pour y vivre, il faut vraiment voir le moral. Et lui, il va partir et il va découvrir quelque chose. Il va découvrir qu'il y a une sorte de guilde mystérieuse qui s'appelle la guilde des voyageurs. J'y revise avant. Je me souviens que ça s'appelle la guilde des voyageurs. Et qui, elle, affronte les flux. C'est-à-dire une espèce de courant électrique qui passe sur des points précis. Et quand on se laisse emporter par le flux, eh ben, on est transporté instantanément, quasiment à la vitesse de la lumière, ce qui permet de vaincre les distances de la planète, parce que, comme on disait tout à l'heure, quand on se lance un voyage, on ne sait pas qu'on va arriver. On n'arrivera sûrement pas, ce sera nos enfants qui arriveront, nos petits-enfants. Et donc, ça va être l'initiation de Zaslo au flux par un voyageur qui s'appelle Luigi, mais on peut mourir de ça. Donc, c'est réservé à certains êtres qui ont des particularités physiques bien particulières. Et qui leur permet de supporter la puissance électrique des flux. Voilà. Donc c'est toute l'aventure de Zaslo et son rapport avec les flux, puis bon, la découverte de l'amour, et puis etc. La conception d'un enfant qu'Alain récupérera à la suite, lui c'est le bébé. Et voilà, je suis beaucoup basé, dans ma tête il y avait l'idée de l'initiation de Zaslo au flux, donc à la particularité de la planète. Il m'a fait beaucoup penser, enfin, je l'ai eu dans ma tête quand je l'écris, à Paul Atreides dans le désert de Dune et son initiation au ver des sables, quoi, capturer les vers des sables. C'est un petit peu la même chose pour moi. Voilà.
Alors, donc, ça c'était Zaslo, maintenant son papa.
Donc, son papa arrive tranquille, enfin juste la tête, hein, parce que,
oui, explique quand même.
Voilà, pour le voyage, pour gagner de la place, on coupe la tête, on ne garde que la tête, et on enlève le corps, et le corps est régénéré à l'arrivée. Comme ça, on en met plus de gens. Donc il est régénéré, avec un corps tout neuf.
Moi, j'ai adoré le fait que certaines femmes, à l'arrivée, se faisaient régénérer un corps beaucoup plus jeune. Ça semble assez, enfin c'est très féminin, mais ça m'a bien plu cette histoire. Sauf qu'elles ont quand même leur tête de vieille ridée au-dessus. Et ça, là, j'ai pensé que ça pouvait être que des hommes qui aient écrit un truc pareil.
C'est la vengeance.
Oui. Mais c'est en option, le truc. Hein. Il faut payer pour être soin. Donc, il arrive comme une fleur, donc ça passe trop fort. Et là, il apprend très vite deux choses qui le laissent pantois. C'est que il apprend l'existence de son fils. Non seulement il apprend l'existence de son fils, mais son fils est considéré comme un dieu vivant, enfin un dieu, par tous les habitants de la planète, parce qu'il a réussi à prévenir qu'il allait y avoir un orage exceptionnel qui allait tuer tout le monde si tout le monde ne se mettait pas à l'abri. Donc grâce à lui, il y a eu des millions de gens qui ont été sauvés, donc il est considéré. Mais lui a disparu. Alors il apprend déjà ça, donc d'avoir un fils, que ce fils soit un héros. Et il apprend aussi qu'il a un petit-fils qui se pointe devant lui et qui lui demande d'aller avec lui à la recherche de son père. Donc voilà, moi, mon roman, ça va être la quête pour rejoindre le père. Est-ce qu'on va retrouver le père ou pas? Je ne vous dirai pas. Peut-être.
Le père et le fils, d'ailleurs.
Oui.
Le père qui est aussi le fils. Voilà.
Donc c'était cette espèce de quête initiatique qui était intéressante. Ça va, vous voulez qu'on arrête ou il y en a qui veulent aller vomir, c'est ça?
Faire l'arbre généalogique.
Oui, ben, le fils, le père, tout ça, c'est merdé. Donc voilà, donc ça c'était intéressant, des petites contraintes comme ça qu'on s'était mis, et en même temps de montrer qu'entre ces trois hommes, il y a une filiation bien sûr reconnue, mais en même temps donc une découverte des uns des autres. Et ça c'était très, très intéressant là-dessus.
Alors, on parlait tout de suite des dames dans le roman. Les personnages féminins, en fait, il y a l'image d'abord de Zaslo véhicule de de sa propre mère, qu'il a élevé dans la haine de son père, etc. Et Zaslo, au début, c'est pas du tout un garçon sûr de lui. Enfin, quand on le voit arriver, lui, sur Gigante, il est plutôt...
jeune.
Ouais, il est jeune, oui, il a 22 ans. Hein, et puis... il est plutôt timide, il est un peu empoté, enfin bon, et il va rencontrer donc dès son arrivée une jeune femme absolument hors norme, qui est une tueuse, hein, qui s'appelle Madilia. Et c'est cette espèce de rapport un peu étrange entre Madilia et Zaslo au début qui m'a vraiment beaucoup accroché, moi, dans ton roman, à savoir qu'elle, elle est, c'est une femme forte qui connaît son monde, qui sait déjà plein de choses sur la planète, et comment elle va en fait tomber amoureuse de Zaslo, et puis ensuite cette espèce de course-poursuite physique,
oui,
dans les déplacements qui les amène à découvrir leurs sentiments, enfin à concrétiser leurs sentiments. Alors, dans beaucoup de tes romans, il y a des histoires d'amour.
Ah,
hein, oui. Ah oui, une histoire d'amour de Pierre Bordage.
Hein. Il a été nourri avec des arlequins.
Oui, mais avec un Z, c'est des arlequins.
Celle-ci, elle... comment tu as envisagé ça, toi, justement, cette rencontre, ensuite il s'échappe, il se croit prêt, ouais. Enfin bon... Ouais.
Ben, je l'ai un peu traité comme toute histoire amoureuse, je pense. Je pense que dans l'histoire des couples, c'est la femme qui est forte en général. Et donc, c'est symbolisé par Madilia ici, mais bon, elle est tueuse, bon, elle a un peu trop de choses. Mais
je te rappelle que tout est enregistré, ce que tu dis.
Pardon, je ne tiens pas compte de ce que j'ai dit. Hein. Je déconne. Et que pour se révéler, parce que c'est un personnage très irrésolu, Zaslo. Il arrive, il veut tuer son père, il est dans le souvenir de sa mère, il ne sait pas très bien ce qu'il vient faire là. Il découvre un monde géant où tout est compliqué, il se fait piquer toutes ses affaires au début. Enfin, c'est vraiment un personnage un peu paumé, quoi, qui arrive sur ce monde complètement paumé. Et c'est Madilia, la rencontre avec Madilia sur un. Je sais pas comment on appelle ça, c'est une espèce de grand vaisseau.
Des glisseurs.
Ouais, des grands glisseurs sur sable, qui va le révéler à lui-même. En fait, j'ai l'impression que dans toutes les mythologies. Le héros est révélé à lui-même par la rencontre avec une femme, souvent poussé par une déesse dans la mythologie grecque, ou bien par une mortelle qui lui inspire un amour fort, qui lui permet de devenir un héros. Je pense que dans beaucoup de cas, dans pratiquement tous les cas, je dirais que la femme est l'arc et l'homme la flèche, et s'il n'y a pas un arc, la flèche n'ira pas loin. Et il a besoin de cet arc-là pour pouvoir se lancer dans l'aventure et avoir le courage, lui, un moment, d'affronter les flux, parce que c'est ça qu'il va devoir trouver. Et effectivement, c'est une course poursuite parce qu'il a peur de ça aussi. Il a peur d'être révélé à lui-même quelque part. Donc, il sait très bien qu'il va être obligé de quitter les rivages de l'enfance et de ses rêves et de tout ça. C'est-à-dire, oui, la vengeance du père, une sorte de quête un peu floue comme ça, dans laquelle il se complaît. Finalement, il est obligé de quitter tout ça pour devenir lui-même un homme et s'accomplir vraiment en tant qu'être humain. Et je pense que c'est la rencontre avec cette femme qui lui permet ça.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent dans la littérature jeunesse, c'est ce genre d'expérience que fait le jeune héros, hein, rencontrer l'amour, etc. Et, alors que toi, les femmes dans ton roman, Romanka par exemple, enfin bon, ces femmes assez prégnantes, etc., il n'y a pas de relation amoureuse. Si ce n'est ton petit ado qui va découvrir, mais enfin il découvre les choses sans vraiment sentiment, lui, Drake. Hein, et comment tu as géré, toi, les personnages féminins dans le tien?
Il n'y en a pas. Non, j'ai pas géré ça parce que je voulais garder un maximum la relation entre le grand-père et le petit-fils, j'allais dire intact, parce que bon, s'il y a une histoire d'amour qui se développe, soit avec le grand-père. Il reste jeune quand même, hein, il a un corps tout neuf. Hein,
pas comme nous. Hein.
Et, pas comme nous. Et en même temps, donc ce jeune enfant, ça allait casser un petit peu ce maillon que je voulais garder. Donc c'est vrai que j'ai occulté dans ce livre-là une quelconque histoire d'amour.
Alors. Justement, la femme dont je parlais tout de suite, qui va accompagner Coeb et Drake, c'est une représentante d'une religion. C'est la représentante de la religion qui est autour du personnage des Aslo. Comment vous en êtes arrivé à gérer l'un et l'autre ces problèmes de religion, enfin bon, c'est quelque chose qui est important quand même sur la planète. Ça s'appelle le truc du Saint-Sauveur, je ne me rappelle plus si.
L'église du Saint-Sauveur.
Chaque société crée sa ou ses religions. Apparemment, ça a l'air d'être un besoin des hommes. Donc, tous les migrants amènent leur propre religion. Mais là, d'un seul coup, avec ce héros élevé au rang de super sauveur, fait que c'est la première religion de la planète, issue de la planète. Donc, d'où l'importance de ça. Et ça nous intéressait de montrer en même temps la naissance d'une nouvelle religion, avec des constantes, bien sûr. Ça veut dire, on fait la quête, on ramasse des sous, et puis il y en a certains prennent le pouvoir pour gérer tout ça. Donc on est plus quasiment dans la religion, mais dans une histoire de presque politique. Et donc ça nous intéressait de montrer un peu ça, et puis en même temps un peu les doutes qu'allait avoir un peu tout ce beau monde. Donc qu'est-ce que tu en penses?
Mais c'est marrant parce que c'est pour une fois j'ai laissé prendre la religion à l'un. C'est-à-dire que moi, il se démerde avec. C'est le sujet de faire une religion. Moi, j'ai souvent traité les religions dans mes livres, et là, c'était pas mon but principal dans le roman. Moi, c'était vraiment la quête de l'adaptation à ce monde.
Parce qu'il avait pas lieu, t'étais avant aussi. Donc,
oui, puis.
Tu racontais l'avant.
Et puis, bon, il rencontre quelques tribus ou quelques peuples errants qui ont des pratiques religieuses, mais c'est pas le sujet central du livre comme certains de mes autres. Quoi. Mais lui, c'est vraiment la découverte du monde, et c'est cette découverte du monde qui fera de lui un héros sans qu'il le veuille vraiment, parce qu'il découvre non seulement les flux, mais il découvre aussi d'étranges particularités de la planète qui sont les chuchoteurs. C'est-à-dire que quand on se met à un endroit particulier de la planète, on peut être entendu à un tout autre point très très éloigné. Donc voilà, lui découvre tout ça et grâce à cette découverte de tout, c'est-à-dire à la fois des géants, des flux, des chuchoteurs, c'est lui qui va mettre en place effectivement le sauvetage de la planète.
Oui, mais avec les chuchoteurs, quelque part, c'est bien issu aussi de la religion, puisque le côté chuchoteur, c'était souvent dans des...
Mais non, c'était la chaise Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à la chaise Dieu, qui est en Loire, je crois, du côté du puits, où on se met dans un coin de la pièce voilà, et on chuchote, et celui qui est à ce point-là entend parfaitement comme si vous chuchotiez à l'oreille. Donc ben, j'ai étendu cette histoire-là sur un plan planétaire. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, finalement. enfin, personne n'est venu me démontrer le contraire, donc ça va pour l'instant. Et donc voilà, donc, pour moi l'histoire de Zasto c'était vraiment lui, la découverte du monde, et puis comme on est aussi, c'est le roman qui commence le cycle, c'était vraiment de parler de gigante, quoi, avec toutes ses caractéristiques, toutes ses possibilités. Et c'est vrai que ça a donné naissance à une religion qu'exploite Alain derrière, qui me paraît très très pertinent.
Oui, il y a un passage que j'aime bien, là, je suis en train de le rechercher. Du chapitre 21.
Tout le livre est bien, mais il n'y a pas
ça. Oui, tout le livre est bien, oui. Il n'y a pas de doute. Mais c'est ce que dit Zaslo à un moment donné. Alors voilà, plus je chevauche les flux, plus je me sens humble face à la puissance et à l'intelligence de gigantes. Non seulement notre planète nous fait don de ses immenses territoires, de ses ressources infinies, mais elle nous contraint à la métamorphose, elle précipite notre évolution. Si nous restons accrochés à nos habitudes, à nos limites, elle nous éliminera d'une piche nette comme des créatures parasites. Si nous n'épousons pas ses rythmes secrets, elle n'aura aucune raison de nous épargner. Mais si on met le mot terre à la place de gigante, on n'est pas loin d'être exactement dans ce que souvent on a appelé le culte de Gaïa, en fait, etc. L'adaptation de l'humanité, il n'est pratiquement jamais question de la terre dans votre cycle. Hein. Ils partent tous les deux d'une planète qui s'appelle Azadeh, et en fait, mis à part le temps unifié, universel, avec...
Oui, c'est pas de sens.
Oui, mais ouais. Sinon, on ne parle jamais, en fait, de la Terre. Et voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce passage-là, parce que, en fait, c'est quelque chose de totalement universel. Si on ne respecte pas la nature autour de nous, si on ne s'adapte pas, eh bien, on risque d'être, effectivement... comme il est dit dans ce petit passage du journal de Zaslo, on risque d'être éliminé par...
En même temps, on nous montre aussi que les humains ont une faculté d'adaptation extraordinaire. Oui. Regardez sur Terre, on a colonisé absolument tous les endroits et tous les climats. Donc c'est une des forces de notre race. Et je pense que si on allait sur d'autres planètes avec des conditions très très particulières, d'une manière ou d'une autre, on arriverait à se développer comme ça. On est une espèce qui est assez adaptable.
Alors, qu'est-ce qui vous reste chacun de justement ces adaptations d'humains comme étant la communauté la plus agréable pour vous, la plus extraordinaire? Toi, je sais, Alain, que l'Aquarmada, ça t'a beaucoup plu. Tu m'en avais parlé de la création de l'Aquarmada. Explique-moi de quoi il s'agit.
Donc là, c'est un peuple qui voyage sur une rivière, mais là, générationnelle, depuis donc des centaines d'années pour arriver à leur point de chute. Et je trouve qu'ils avaient, à travers ce chemin, ils ont, sans s'en rendre compte peut-être, trouvé un équilibre parfait entre la nature, ce qui les entoure, la découverte, cette migration. Enfin, je pense que cette société-là, finalement, se complaît à rester comme elle est. Et je ne sais pas s'ils seraient finalement, au bout du compte, capables de s'adapter en disant « ça y est, on est arrivé, stop, on descend ». Et ça se trouve... ça sera peut-être leur perte. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont découvert quelque chose de nouveau, encore une adaptation. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce passage, parce que ça paraît une image facile, mais ça coulait de source, parce que ça se passait sur une rivière, mais ça coulait bien.
Les bateaux circulaires
pour éviter...
Ça a fait un peu comme les descentes de rapides dans les parcs d'attractions, vous savez, où les grosses bouées se heurtent, voilà. Et en lisant le livre, je voyais ça à l'échelle d'une ville entière. Ils sont je ne sais combien de milliers d'habitants à vivre comme ça.
Comme une grappe, ils descendent comme ça.
Voilà. C'est sympathique aussi. C'est eux qui construisent le filet au-dessus lorsqu'il y a l'orage, pour créer une cage de Faraday. Enfin bon, il y a beaucoup d'ingéniosité dans ces peuples de gigantes. Et toi, Pierre, dans celui que tu as créé, il y en a un qui te reste...
Ce qui me reste en tête, moi, c'est la guilde des voyageurs, parce que ce sont les risques tous, ce sont les gens qui acceptent de prendre le risque d'affronter la puissance électrique des flux pour simplement faire avancer la chose, qui perdent leurs cheveux, donc toute allusion au système capillaire ne sera évidemment pas prise en compte, qui sont brûlés dans leur chair par ça.
Vous avez les doigts dans la prise pour voir ce que ça faisait.
qui peuvent souffrir dans leur chair pour ça, qui sont prêts à prendre ces risques-là pour simplement, parce que ce sont des gens, là tu parlais de l'adaptation aux êtres, aux éléments et à la planète, là c'est l'adaptation extrême, quoi. C'est-à-dire c'est de prendre tous les risques pour pouvoir aller dans le cœur même du système de la planète, dans ces fonctionnements les plus secrets, qui nous paraissent dangereux à nous, mais que ces gens acceptent d'affronter le danger pour ça. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler ces...
Non seulement ils acceptent, mais en même temps, après, ils se distillent comme une drogue, c'est-à-dire d'aller toujours découvrir...
Parce qu'au début, quand on voyait sur un flux, on n'est pas sûr de là où on va atterrir, on ne maîtrise pas les choses, donc après, il faut retomber sur un autre endroit où on puisse reprendre un flux, comme une correspondance. On avait parlé des correspondances à l'époque. Donc toi, tu prends le troisième flux à gauche, après tu...
En plus, ces gens-là créent une espèce de carte pour s'y retrouver un peu.
Voilà, ils sont aussi des planétologues, géologues de la planète.
Le seul truc rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un orage absolument terrible, ça change complètement la carte. Tous les flux ont changé de place, donc il faut tout recommencer. Ça aussi, c'est intéressant.
Et la faune? Dans les petites bestioles que... Ah oui, mais c'est gigante à la loupe, le sujet. Hein. J'en reviens à mon sujet de tableau.
Alors là,
la faune, tu te rappelles de ces gros...
C'est quoi la faune,
ces gros vers...
Ah oui, qui balancent des espèces de corps.
Oui, ça te revient un peu quand même.
Ouais, en plus, c'est toujours un plaisir pour moi de créer des bestioles un peu bizarres. Je fais pas mal d'espèces opéra, on en rencontre quelques-unes. Quelqu'un dans la chimale d'avance m'avait dit qu'un jour on devrait faire un atlas de toutes mes créatures un peu bizarres, planétaires. Ouais. Et là, oui, il y a par exemple ces espèces de gros vers qui avancent en abandonnant un double filet blanc derrière eux, qui font des corps très très solides. Quoi. Et dont Zasto fait la rencontre d'un moment. Il a un peu peur au début et il surmonte sa peur et il se rend compte que finalement c'est une créature très très bienveillante. Il y a une différence entre son aspect qui est redoutable et son comportement ou son caractère qui est très bienveillant. si tu me demandes un autre exemple, je vais t'en passer. voilà, donc il y a des grands verres qui perdent deux filets.
Il y en a pas mal, hein, parce que vous êtes quand même bien éclatés au niveau du bestiole. Hein. Il y a vraiment... Ouais. Toi, non ?
C'est bon.
Okay. Non, mais bon, tout ça pour dire que le monde est fouillé d'une façon suffisamment pointue pour qu'on y croit, c'est crédible, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors qu'au départ, on se dit que c'est pas possible de survivre dans un monde pareil. Finalement, c'est un monde où on a presque envie d'aller en vacances. Hein. Bon, moi, je ne sais pas si on plongerait dans les flux du premier coup, hein, parce que ça laisse quand même sacrément des traces. Mais
ça mettrait en faillite les instituts de beauté pour les épilations, mais c'est
on finit par se dire que du coup, c'est effectivement un monde viable. Et on comprend que les gens soient à la surface de cette planète, et surtout qu'il y en a qui continuent à y venir. Hein.
Ce qui nous a fait plaisir aussi, que quelqu'un, enfin écrivaine, qui nous a dit moi j'aimerais, je demande l'autorisation de pouvoir un jour écrire une histoire qui se passe sur Gigante, parce que c'est tellement grand, que ça ne pose aucun problème, mais c'est le fait que ça lui ait plu, la société que l'on a mis en place, donc une sorte de cahier des charges, elle a envie, elle aussi, d'écrire là-dessus, donc elle va peut-être le faire un jour, mais ça serait vraiment sympa.
Justement, ça, c'est ce qu'on appelle les univers partagés. C'est relativement rare de voir d'autres auteurs, enfin, accepter que d'autres auteurs viennent mettre les pieds dans son monde. Mais c'est sûr que sur Gigante, il y a largement la place. Est-ce que vous avez eu une idée, quand même, à peu près du planisphère ? Vous avez fait un dessin ? À propos de le scripturant ne doit pas faire de planisphère à l'avance.
J'ai fait le dessin, mais c'était un petit Mickey.
Vous n'avez jamais essayé de mettre en position sur une feuille les différentes régions pour voir... Non. Vous avez laissé ça à la guilde des voyageurs.
Oui,
parce qu'ils le font. Il y a un moment donné où c'est bien décrit dans le temple de la guilde, enfin dans le cœur de la guilde, que là, ils ont fait ça avec les petites lumières qui s'allument avec
sur les
points de flux, etc. Ouais. Oui. Bien, alors, on arrive presque à la fin. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez leur poser des questions particulières sur Gigante ? Est-ce que vous avez... Par curiosité, qui les a lus ou qui en a lu au moins un ? Il y a quelques-uns qui les ont lus. Alors, vous avez lu au nom...
Ça m'a donné envie.
Vous avez lu au nom du père, pas au nom du fils.
Voilà, pardon. Voilà.
Vous avez fait le plus dur. Hein.
Le plus gros, du moins.
Vous êtes dispensé du reste.
Ah non, ça me donne envie de le lire quand même.
Et mais puis, d'une façon plus générale, est-ce que quelqu'un veut leur demander quelque chose ? Non ? Personne n'a de questions à poser. Bon. Alors, ça vous a pris combien de temps d'écrire les romans ? Là, vous avez écrit en combien de temps ? Entre l'idée de départ, comment c'est venu autour d'une bonne bouteille ?
Oui.
C'est quelque chose déjà.
Oui, non, c'était. Ça, c'est, l'idée de cheminement s'est fait un petit peu. Parce que moi, je trouve que c'est une merveilleuse histoire d'amour d'écrire avec quelqu'un d'autre. Son mari qui est là ne réagit même pas quand je dis ça alors que j'écris avec elle. Donc, mais je trouve.
Il s'en fout totalement.
Non, parce que c'est là, c'est de rentrer dans la tête de l'autre et puis que l'autre accepte et puis que ce mélange-là et puis se sentir plus fort à deux parce qu'il y a des idées en commun qui vont enrichir les textes de l'autre. Et ça, c'est pas effectivement faire à tout le monde. Bon, pour. Moi, j'étais habitué à ça, mais pour Pierre, c'était une grande première, donc avec certaines réticences. Bon, quand je dis histoire d'amour, c'est vraiment une histoire d'amitié. Il faut vraiment d'accepter ça. Mais je pense que voilà, ça reste à un niveau d'expérience. Certains auteurs ont passé toute leur vie à écrire ensemble. Je me rappelle de Feu, parce qu'ils sont décédés, malheureusement, mais les Grimaud, écrivait pour la jeunesse, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années. Ils partaient d'une idée ensemble, chacun faisait le livre de leur côté. Ils relisaient les livres et ils prenaient les meilleurs passages de chaque des deux pour refaire un troisième livre. Voilà comment ils fonctionnaient. Voilà. D'autres fonctionnent chapitre en alternance. Nous, commander deux structurants, merci. Ça m'est arrivé d'écrire un des trois premiers chapitres, puis après d'écrire les suivants, puis après moi je dis tiens, là il y a de la bagarre, c'est moi et de la bouffe. Là, il y a des, il y a des sentiments. Là, c'est toi qui vas t'y coller parce que tu vas être plus forte. Donc, on peut faire ça en mélangeant. Et là, encore une nouvelle forme d'écriture, c'est-à-dire de monter deux romans pour deux âges différents. Donc, ça peut paraître complètement aberrant. Quel intérêt ? L'intérêt, bon, d'aller vous la montrer, c'est qu'effectivement, ça peut être lu indépendamment et en même temps donner envie de lire croiser après, de retrouver le monde. Voilà, il faut vraiment bien s'aimer, il faut vraiment bien accepter l'intrusion de l'autre. Et il y a certains auteurs, ça leur est carrément impossible, ce genre de choses.
Tu as dit tout à l'heure, tu n'écrirais plus jamais avec Alain. C'est la seule fois où tu as écrit avec quelqu'un, toi. Tu n'as jamais fait d'autres...
Si, j'ai fait un autre truc qui s'appelle Mission Mother avec Mélanine, qui est paru chez Soleil, mais qui a un truc un peu particulier, parce que c'est un livre enquête avec beaucoup d'illustrations et tout. Donc c'était... un travail à mi-chemin entre la BD et le roman. Non, mais ça, non, je dis, j'écrirai plus jamais qu'Alain, c'est vrai, mais ça va quand même beaucoup.
Une fois tous les 20 ans.
Une fois tous les 20 ans, voilà. Tu prends un vaisseau très très lent, s'il te plaît. Sinon, je t'attendrai de l'autre côté. Non, ça m'a beaucoup intéressé quand même. Ça, c'est aussi c'est se mettre en danger quelque part que de se confronter avec l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Ce que j'ai fait d'ailleurs, par exemple, un livre qui s'appelle Atlantis, où je me suis inséré dans l'univers d'un créateur de jeu. Parce qu'on voulait faire un univers décliné, partagé, et où j'étais obligé de tenir compte de ses propres inventions pour pouvoir m'installer moi. Et je lui ai demandé, en tant qu'auteur de jeux vidéo, à quel endroit il s'est senti frustré, lui, parce qu'il ne pouvait pas développer certaines choses, puisque pour des contraintes techniques, le jeu exigeait... Bon, et moi, je me dis, mais moi, je vais m'installer dans toutes tes frustrations, en fait. Parce que l'auteur, lui, l'auteur de roman n'a aucune limite sur le plan du budget. Donc, c'est un gros, gros, gros avantage. Donc là, l'aventure avec Alain, pour moi, c'était aussi une découverte de quelque chose. De la façon que les personnages se jettent dans les flux en ayant confiance, là, c'est aussi une adaptation, une ouverture d'esprit à la fois à l'imaginaire et à la façon de travailler. Enfin bon voilà, ça m'a permis de découvrir autre chose. Donc ça c'est toujours intéressant parce que c'est nourrissant pour l'auteur.
Et puis c'est, je trouve que c'est assez étonnant de dire, c'est un peu comme si on était deux cuisiniers et qu'on ait les mêmes ingrédients et qu'on arrive à faire des recettes différentes avec les mêmes ingrédients. Et donc de goûter au plat à l'autre en disant tiens, ah mais non, là c'est mieux, c'est plus relevé. C'est ça qui est aussi très très intéressant, ce croisement-là. Et de voir qu'il n'y a pas qu'une seule solution par rapport à... Il y a des chemins différents qui sont possibles à mettre en place. Aussi, c'est intéressant.
Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'ouvre un livre, je vais souvent lire la dernière ligne.
Ça s'appelle du vice.
Ça s'appelle la curiosité. La dernière ligne de Pierre, c'est « Ses particules se dissocièrent et se mêlèrent à celles du flux. Il fut saisi et emporté par un formidable courant. » Et la dernière ligne d'Alain, c'est... «
Quand est-ce qu'on mange ?»
Coeb sourit, il vit venir une barque vers lui. Il rangea rapidement ses affaires, il était heureux. Voilà. On sent que les deux personnages, à la fin, sont vraiment heureux. Moi, j'ai un petit conseil à vous donner. Hier, les enfants que nous avons rencontrés dans la salle ciné et qui ont participé au prix Pierre Bottero, et je ne dirai jamais à quel point j'admire l'investissement des organisateurs des Onériques d'avoir réussi à générer autant d'énergie des enseignants autour d'eux pour faire participer plusieurs collèges au prix Pierre Bottero. Ils ont créé des bandes annonces pour présenter les 5 romans qui étaient dans la sélection. Et si j'ai bien compris, hier, ils sont relayés sur Mes Yeux TV. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais apparemment, il est dit que vous pouvez, oui, j'ai compris ça. Il est possible de les visionner quelque part. Alors, renseignez-vous éventuellement auprès des organisateurs où vous pouvez voir ça et regardez la bande-annonce de Gigante au nom du Fils. Vous verrez ce que ces enfants ont réussi à faire avec des petits personnages en Lego pour matérialiser le voyage à deux vitesses des deux héros. C'est absolument superbe.
Ah ouais.
Et rien qu'en regardant cette petite bande-annonce, on comprend parfaitement le décalage de temps entre Zaslo, entre Coeb, avec les petits vaisseaux. C'est mignon comme tout. Et puis, par même occasion, si vous avez l'occasion, regardez aussi les bandes-annonces qui ont été faites par les autres, pour les autres romans jeunesse qu'ils ont lus. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce travail d'enfant à propos de Gigante, parce qu'en fait, c'est fait par des enfants pour des enfants à leur niveau, mais ça résume extrêmement bien le fonctionnement de la planète Gigante avec ce voyage spatial, le gigantisme de la planète, etc. Vu par des adolescents, c'est une petite merveille, cette petite bande-annonce. Voilà. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire les livres dans l'ordre, dans le désordre. Moi, quand je les ai relus là, pour cette table ronde, je les ai lus en parallèle. C'est-à-dire j'ai lu la première moitié de Pierre, la première moitié d'Alain. J'ai même pas fini, j'ai pas voulu aller jusqu'à la fin pour ne pas être tenté de vous la dévoiler. Donc voilà, on est pratiquement arrivé au bout de notre temps imparti. Merci beaucoup et puis bonne lecture. Et puis alors n'hésitez pas, les livres sont en bas, ils vont vous les dédicacer, mais ils vont déjà commencer par me dédicacer les miens parce que le paradoxe total, c'est que j'ai leurs deux bouquins depuis le début et qu'ils ne sont dédicacés ni l'un ni l'autre. Alors donc, il va falloir qu'ils travaillent un peu là. Merci.
Merci. À vous.
Merci.